Amis Poutonneux, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro dont on refait le mastre. On refait le mastre, l'émission radio de Poteau Carré. Une émission en plein doute. Vous avez vu le titre choisi par Verivel. Un titre qui sied parfaitement à la situation. Des supporters qui doutent, des joueurs qui doutent et malheureusement un entraîneur qui doute pas, enfin, ou qui doute pas assez peut-être, ou qui se remet pas suffisamment en cause. On va en parler. Alors, c'est une émission quand même bilan de la première partie de saison. On va parler de l'effectif, peut-être des déséquilibres dans l'effectif si on en perçoit et des priorités de recrues au mercato. Bon, on va être obligé de faire un bilan global d'Orneland, sa stratégie, enfin tout ce qui lui incombe. Et puis après, on parlera un peu de Kilmer. Est-ce que vous croyez encore au beau discours? Ou est-ce que vous êtes comme Pat Guillou, vous ne croyez pas au Père Noël? Bon, bah, on commence avec l'effectif. Ah bah non, je vais quand même présenter. J'étais parti pour faire l'émission tout seul, moi, besoin de personne. On va commencer par le personnage le plus important de la soirée, évidemment, Verivel, qui a tous les accès et crac! Qui nous coupe tout si on n'est pas gentil avec lui. Salut Verivel.
Salut Osvaldo et bonsoir à tous.
Et puis avec nous ce soir, dissident, pilier de l'émission, et on en parlera peut-être dissident, d'abord supporter des Verts à 100%, et puis un petit peu de QPR aussi, et on en parlera tout à l'heure. Salut dissident.
Salut Osvaldo, salut à tous.
Également avec nous ce soir, Pat. Salut Pat.
Salut Osvaldo et bonsoir à tous les potonautes.
Ouais, bonsoir à tous. Et puis, par hasard, qui est arrivé tard, mais qui est au bout du compte à l'heure. Salut par hasard.
Salut Osvaldo, bonsoir à tous.
Alors, l'effectif qui était présenté. Oh, vous vous souvenez des expressions utilisées en début de saison? Le PSG de la Ligue 2, le Real Madrid, enfin. Hein, on allait écraser tout le monde, c'est extraordinaire. Et encore, l'équipe n'est pas rodée, elle marque déjà 3 buts par match, ça va être incroyable. Bon, c'était ce qu'on pouvait entendre. Moi, je suis jamais tombé là-dedans, j'ai jamais été impressionné par ce qu'on produisait. Par hasard, je commence avec toi parce que on avait un petit peu de désaccord quand même. Tu avais tendance à défendre notre niveau sans être totalement enthousiaste, mais en disant que c'était quand même largement suffisant par rapport au reste, tu étais optimiste. Est-ce que tu as toujours le même point de vue sur le niveau réel de cet effectif, hein? Après, on va parler, on rentrera dans le détail sur peut-être ce qui manque pour que cet effectif soit meilleur. Mais son niveau réel, est-ce que tu as changé d'avis ou est-ce que tu penses toujours que c'est largement suffisant et que globalement on est quand même au-dessus d'à peu près tout le monde?
Pas évidente ta question parce que mon avis a un petit peu changé durant ces 2 derniers mois. J'étais au début de saison finalement assez satisfait du recrutement et en me disant que l'équipe était plutôt meilleure que celle de l'an dernier. Je le pense plus vraiment aujourd'hui et donc je pense qu'on est malgré tout avec cette équipe pas vraiment améliorée, qu'on est malgré tout dans les deux meilleurs effectifs avec celui de Reims de Ligue 2. Donc on est légitimement en droit d'attendre qu'on finisse à l'une des deux premières places. Sachant qu'Orneland a affiché clairement l'objectif de la première place. Mais je suis en revanche contre l'idée de dire que on est vraiment très au-dessus des autres. Parce que si je prends certains autres effectifs comme celui de Reims, il y a des joueurs qui seraient titulaires chez nous, des joueurs de Reims qui seraient titulaires chez nous. Je pense que Palois n'est pas moins bon que nos défenseurs centraux. Nakamura, on ne l'a pas forcément. Teddy Thomas, il est bon aussi. Enfin bref, et on peut dire un peu la même chose à Montpellier, des joueurs comme Savanier par exemple, ou Omer Hagic derrière. Donc on n'a pas un effectif pour écraser la Ligue 2. Pour l'écraser en tout cas sans un collectif bien huilé et bien focalisé sur ses objectifs. Donc on est dans les deux trois meilleurs effectifs, mais sans qu'il y ait de quoi se reposer sur nos lauriers et jouer à 80%.
Oh, ça, assurément, personne ne pourra dire le contraire, effectivement. Maintenant, si on rentre dans l'équilibre de l'effectif au-delà du niveau, la répartition des joueurs en fonction de leur poste et du niveau de chacun, dissident, je viens vers toi, est-ce qu'il y a une des lignes, classiquement les trois lignes, hein, défense, milieu, attaque, est-ce qu'il y a une des lignes qui, te semble-t-il, pose problème plus que les autres?
Oui, moi, la ligne qui me pose le plus problème, c'est le milieu de terrain. Je trouve que on a trop de joueurs qui ont un profil trop technique, trop offensif. On n'a pas assez de joueurs de gabarit qui prennent de la place, qui prennent de la masse dans l'entrejeu. Et c'est encore plus problématique. Enfin, c'est très problématique en Ligue 2. Par hasard, parlait de Reims il y a pas longtemps, et c'est marrant parce que j'ai regardé leur match au Red Star, parce que contrairement à notre coach, moi ça m'arrive de regarder un peu des adversaires, et j'étais vraiment pas séduit, mais j'ai vraiment noté que leur milieu de terrain était à la fois dense et technique, physique, des profils qu'on n'a pas vraiment. Je trouve que leur milieu de terrain est beaucoup plus équilibré que le nôtre. Et je trouve que, particulièrement à ce moment de la saison où les organismes commencent un peu à tirer dans tous les sens, et ben, il nous manque ce profil un peu serein et athlétique au milieu de terrain pour un peu cadenasser le jeu. Donc voilà, pour répondre à ta question, je trouve que notre effectif est particulièrement déséquilibré au milieu de terrain.
Oui, et si on ajoute, là tu parles de profil de joueur, si on ajoute la profondeur de banc, je pense qu'on est trop juste aussi, puisque quand on a un ou deux blessés, ce qui arrive sans arrêt, on va en parler, ça aussi, des blessures à répétition qui continuent. On a des jeunes qui sont susceptibles de rentrer, bon, je pense à Louane, par exemple, qui est encore tendre, quoi. Or, Aymar, j'en parle même pas. Et Nadir El-Jamali, il a fait quelques bonnes entrées, mais enfin, c'est pas un garçon qui aujourd'hui, a le niveau pour faire des diffs quand on fait appel à lui. Bon. Pat, là je parlais de profondeur de banc, de quantité, donc au-delà de la répartition des profils. Si on parle de la défense maintenant, la quantité, elle est là, mais est-ce que tu es d'accord avec moi que la défense pose problème en termes de qualité? Et là, je ne parle pas seulement de l'organisation de l'équipe, hein, de toute l'organisation défensive, je parle de certains joueurs qui sont mis titulaires en permanence et qui, pour moi, ont un niveau insuffisant. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que pour toi, la défense pose problème en partie aussi?
Ah bah, c'est une porte ouverte là qu'on enfonce. Pour moi, effectivement, clairement, pourtant, on avait fait les recrutements qu'il fallait à l'intersaison, qui étaient plutôt sur le papier intéressants et je vais pas dire emballants, peut-être pas déconner non plus, mais dans tous les cas, il y avait de vrais espoirs d'avoir enfin mis la main sur les latéraux qui nous manquaient, d'avoir recruté un vrai défenseur central de très bon niveau, qui avait en tout cas de belles promesses avec Chico Lamba. Et ben, force est de reconnaître que on parlait des blessures, et ben, elles ne font que s'enchaîner également sur ce secteur-là et qu'on se retrouve souvent à bricoler. On a notre couteau suisse Bernauer qui fait de son mieux, mais qui affiche clairement des lacunes, notamment défensives, ce qui est quand même rédhibitoire dans notre système actuel, puisqu'il ne pardonne aucune erreur. Donc clairement, oui, on se retrouve à faire jouer des joueurs. Il y a Appia qui rejoue beaucoup plus que ce qu'il n'aurait espéré, je pense, jouer en début de saison, et qui est en plus loin d'être le plus mauvais quand il joue. On a des joueurs effectivement qui après quand ils sont alignés ne répondent pas aux attentes pour l'instant. Donc pour moi oui, effectivement il y a un vrai problème. Alors en quantité de joueurs, je pense quand même malgré tout qu'on n'est pas si mal. Je mettrais quand même un petit bémol sur les latéraux parce que clairement, on en a recruté deux pour être titulaire, mais il aurait fallu en recruter deux autres pour être remplaçant, au moins surtout sur le côté gauche. Maintenant, voilà. Quand on voit ce qu'on voit actuellement, notamment dans l'application, dans les erreurs défensives qu'on peut faire, les nombres de buts qu'on prend, donc clairement, on n'est pas au niveau. Il y aura des choses à faire, j'espère, au mercato.
Alors, moi, j'ai une question. Alors, Mercato, on va en parler, là, mais si on parle des recrues, des rivales, je me tourne vers toi. Alors, Traoré, de ce qu'on a vu, il n'a même pas le niveau N3 donc, actuellement. Donc, enfin, je ne sais pas, peut-être qu'il va progresser, le gamin, mais j'en parle pas. Mais Hanan et Joao Ferreira, qu'est-ce qu'ils ont de mieux que les latéraux qu'on avait l'année dernière, par exemple, si on avait prolongé Petro, et si on avait Appia en numéro 1, Vérivelle? J'exagère la situation ou tu es d'accord avec moi que ces deux-là n'ont strictement rien apporté par rapport à ce qu'on pouvait proposer l'année dernière?
Non, c'est sûr. Bah, qu'est-ce qu'ils ont de plus? C'est que ils sont plus estampillés qu'ils meurent, quoi. Donc recrues sur de la data, des profils plus jeunes et puis susceptibles de percer. Mais à part ça, enfin, sur la réalité du terrain, c'est sûr que on n'a pas vraiment gagné au change. Et puis, le système fait, je suis désolé, on ne devait pas parler du système, mais on est obligé quand même d'en parler quand on parle de la défense ou même du milieu de terrain. Le système fait que, il faut des joueurs qui sont à la fois très très physiques, très très endurants, à la fois très intelligents au niveau foot parce que voilà, il faut anticiper beaucoup. Et à la fois bon techniquement, donc c'est quand même très très compliqué à trouver ce genre de joueur en Ligue 2 pour jouer en Ligue 2 en France. Donc voilà, on a tous ces paramètres-là qui rentrent en ligne de compte et qui font que ben peut-être ces joueurs-là ils seraient corrects, mais on leur demande quand même énormément et surtout, comme on disait tout à l'heure, on leur pardonne rien. Enfin, il n'y a rien qui est pardonné dans ce système-là. Donc, la moindre erreur coûte extrêmement cher, qu'on soit au milieu de terrain ou en défense. Donc, c'est vrai que l'un avec l'autre, eh ben, ça fait en fait des gros doutes sur leur capacité à nous emmener en Ligue 1.
Oui, sur les... Alors, on va en parler dans la stratégie de Kilmer, la capacité à nous emmener en Ligue 1, c'est une chose, mais la capacité à progresser en Ligue 1, c'en est encore une autre. Par hasard, je reviens vers toi. Donc, on parlait tout à l'heure de la qualité globale de l'effectif, avec les bémols qu'on a apportés les uns et les autres. Toi, le premier qui apprécie un peu on va dire, le niveau global de l'effectif de manière différente par rapport au début de saison. Mais en ce qui concerne le niveau réel des joueurs, tu en perçois combien qui sont, on va dire, au-dessus du niveau de Ligue 2, c'est-à-dire à un niveau auquel nos joueurs sont attendus, puisque l'idée, c'est de marcher sur la Ligue 2 et ensuite de pouvoir enchaîner en Ligue 1 et une progression régulière en Ligue 1. On en a combien des joueurs comme ça, selon toi? Des joueurs qui sont largement au-dessus de la Ligue 2, du niveau, clairement, et qui peuvent ensuite prétendre à une partie de l'aventure en Ligue 1?
Bah, pour moi, je dirais entre 1 et 3, selon si je suis bien luné et si on reste sur 2-3 résultats un peu positifs, j'irais jusqu'à 3. Mais sur le bilan de la première partie de saison, je dirais 1, c'est-à-dire David Hachvili, parce que même si je ne suis pas fan du joueur, il faut reconnaître que c'est quand même Monsieur Plus, quoi. C'est lui qui, sur le match de samedi, et c'est vraiment pas la première fois, il l'avait fait à Montpellier, enfin, il l'a fait à plusieurs reprises, il l'avait fait à Boulogne. C'est lui qui, à un moment donné, est décisif et nous fait gagner des matchs ou nous permet d'entrevoir la possibilité de les gagner. Donc, David Hachvili, et puis je dirais sans doute Stassin, même si il le montre pas du tout cette saison, mais je pense que c'est dans la tête, et puis un peu dans le mollet aussi, si j'ai bien compris. Et j'hésite un peu sur Nadé parce que J'ai beau être très fan. En fait, je pense que comme beaucoup de nos joueurs, Nadé, il sera pas ridicule en Ligue 1. Il pourra être titulaire. Mais en fait, je pense que la vraie interrogation, c'est quels joueurs peuvent être des piliers demain en Ligue 1, des piliers de l'équipe, des gars qui tirent un peu l'équipe vers le haut et qui nous apportent des garanties de non-stress, des garanties de jouer autre chose que le maintien. Et à mon avis, à part peut-être Davitashvili, il n'y en a pas. Et il faudrait et encore Davitashvili avec un sens collectif un peu plus affirmé, mais sinon, il n'y en a pas. On a une dizaine de joueurs qui peuvent jouer dans un effectif de Ligue 1 sans être ridicules du tout, qui peuvent faire partie d'une rotation, mais on n'a pas de joueur dont on se dit, lui, il est titulaire de façon certaine, et j'ai zéro inquiétude sur ce qu'il produira en étant titulaire de façon certaine en Ligue 1, quoi. C'est quand
Oui,
même ça le gros souci que j'ai, moi.
bah c'est un énorme souci et on va en parler dans la troisième partie quand on va parler de la stratégie Kilmer, effectivement. Et moi, je suis d'accord avec ça. Et j'ajouterais sur Davitashvili, alors faut qu'il progresse dans son sens collectif, mais il faut aussi qu'il progresse en régularité. Parce que, y a des matchs où il fait la diff tout seul et puis il y a certaines rencontres où il est transparent. Donc ça, c'est pareil quand tu veux, quand tu... Un joueur comme un des piliers, un des meneurs en Ligue 1, c'est pas possible ça, ce profil-là, c'est pas possible. Donc beaucoup d'interrogations par rapport à ça. Alors je vais donner la parole à Dissident après sur les déséquilibres de, enfin comment pouvoir rééquilibrer l'effectif au mercato, comment il voit les choses. Mais avant ça, il y a Verivel qui demande la parole, peut-être pour des réactions.
Oui, justement, alors j'encourageais les gens à participer là sur le chat YouTube et justement sur ce sujet-là, c'est pour ça que je voulais intervenir tout de suite avant qu'on passe à autre chose. Il y a l'âme de fond là qui est sur le chat qui nous dit qu'il lui il voit trois joueurs qui seraient titulaires en Ligue 1, Boakye, Jabeur et Dufus. Voilà, je voulais vous le dire. Alors, c'est Duffus, je crois. Mais c'est ce qu'on va se faire disputer par les anglophiles de cette émission. Mais voilà, pour lui, ces trois joueurs-là seraient titulaires en Ligue 1.
Alors, effectivement, déjà, Duffus, c'est plus joli que Dufus, donc on a adopté. Concernant Boakye, moi, je pense, alors je suis dégoûté parce qu'il a été mauvais contre Bastia, mais je crois que c'est la première fois qu'il a été mauvais depuis le début de la saison, et je pense que c'est notre meilleur joueur depuis le début de la saison, et probablement un garçon avec encore une marge de progression, en tous les cas, je l'espère. Donc, je pourrais mettre une petite piécette sur Boakye en Ligue 1 comme l'âme de fond, effectivement. Du coup, il a dit Duffus, Boakye et qui?
Jabber.
Ouais, alors Jabeur, je voulais en parler au moment d'Ordeland parce que il m'a très impressionné en début de saison et puis beaucoup moins depuis. Alors, dissident. Donc là, c'est un moment important, le mercato. On a été échaudé la saison dernière, évidemment. J'attends rien, à titre personnel, je n'attends rien puisque je ne comprends rien à la stratégie des dirigeants. On en reparlera. Mais si on avait les clés du camion, quelles seraient, selon toi, les priorités en termes de profil? Allez, c'est moi qui tiens les cordons de la bourse. Je vais être un peu plus généreux que Roland et je t'accorde deux profils.
Alors déjà, je te remercie et je vais essayer de les utiliser au mieux, ces deux profils. Donc moi, je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure, sur la problématique principale, c'est pour moi le milieu de terrain. Donc je rechercherai vraiment un profil athlétique pour un 6, on va dire, en termes un peu vieillot, mais ce serait vraiment ça, un profil qu'on n'a pas du tout aujourd'hui dans l'effectif, qu'on n'avait même pas vraiment l'année dernière. Mais je pense que c'est un joueur qui serait vraiment nécessaire à rééquilibrer l'équipe, à pouvoir renforcer un peu la structure défensive de l'équipe et à pouvoir la rééquilibrer, la rassurer, avec l'objectif principal de prendre moins de buts sur la deuxième partie de saison. Je vais
Un
jeter.
et quoi, c'est ça? Tu veux un et quoi?
Ouais, sauf que Ekwa, il est, ouais, il a jamais, enfin, il a pas le profil athlétique en fait finalement du 6 comme j'imaginais. Moi, je pensais quand il est arrivé Ekwa l'année dernière effectivement qu'il aurait ce profil-là, mais en fait il était plus dans le moule Kilmer, un peu technique, un peu trop frêle, tu vois. Moi, je vois vraiment quelqu'un de plus routier de la D2, la Ligue 2, quoi.
Bon, c'était un petit troll, mais voilà.
Ok, voilà. Je vais jeter un mouchoir pudique sur les latéraux. Je vais même pas demander à notre président Osvaldo de recruter un nouveau latéral, parce que je pense que les latéraux, c'est vraiment les sacrifiés de notre système aujourd'hui, et que ça servira à rien d'empiler un nouveau latéral si on continue à jouer dans ce système-là. Donc, je vais garder mes sous pour un autre profil, en sachant que bah, les latéraux dans notre système actuel, quoi qu'ils fassent, j'ai l'impression qu'ils sont un peu condamnés à être moyens ou pas très bons. Donc, en fait, à la limite, moi, je vais presque garder le deuxième profil, et c'est un peu. Comment dire? C'est un peu contre nature pour moi, mais parce que j'aime beaucoup Gauthier Larssoneur. Mais je me dis, si jamais on veut anticiper la montée en Ligue 1, en sachant que Brice Maubleu, évidemment, bah, lui, pour lui, l'aventure va s'arrêter cet été, je serais bien dans l'idée d'aller nous trouver une bonne affaire, un gardien qui pourrait prendre le relais sur la deuxième partie de saison et le préparer pour la Ligue 1. Parce que honnêtement, je ne sens pas Gauthier Larssoneur. D'ailleurs, on en parlait à l'instant sur les joueurs que vous voyez effectivement des piliers en Ligue 1. Personne n'a cité Larssoneur. Et je me dis qu'effectivement, Larssoneur, c'est un bon gardien de Ligue 2. Il peut tout à fait nous faire remonter cette saison. Mais par contre, dans l'optique de la Ligue 1, je tenterais bien un profil sur un gardien plus grand, plus costaud, plus imposant. Et voilà, mon deuxième joueur, ce serait un gardien à ce mercato d'hiver pour le préparer à la saison prochaine.
Oui, pour favoriser l'intégration, on comprend le calcul. Alors moi, j'aime bien Larssoneur aussi, vraiment. Je partage ton opinion. Je pense que c'est un très bon gardien de Ligue 2. Je ne suis pas persuadé qu'il ait, comme certains joueurs le font, qu'il ait la capacité d'hausser son niveau de jeu de manière significative. Il n'a pas été nul la saison dernière, mais il n'a pas été flamboyant non plus. Voilà, je partage ton avis. Je dis pas que c'est une priorité que je choisirais ça comme priorité, mais je comprends tout à fait le calcul, ça a du sens. Je suis un peu moins convaincu par ton explication sur les latéraux, parce que même si le système est exigeant pour eux, accumuler les passes à l'adversaire, rater des contrôles, rater des centres et nous coûter une défaite au bout de 30 secondes de jeu à Bauer, je crois pas que c'est impossible de faire mieux, quoi. Bon, vraiment, moi, avec les. Enfin, vraiment, je trouve leur niveau insuffisant. Bon, ça, c'était une parenthèse pour les latéraux. Pat, je viens vers toi maintenant. On a donc Dissident qui ne touche pas à la défense, peut-être par désespoir, c'est ce qu'on a senti par moment. Je sais pas, je pense que toi, peut-être, dans tes deux profils, tu mettrais un défenseur. Mais il est possible que je me trompe.
Ah, j'en mettrai un. Mais je vais rejoindre Dissident sur le premier profil qui, pour moi, effectivement, est un gros, gros manque dans l'équipe. Et qu'en fait, chaque joueur qui a essayé de le faire depuis le début de saison n'a jamais vraiment réussi. C'est ce poste de numéro 6. Clairement, ce poste qui devait, je pense, revenir à Pierre Ekwa en début de saison, c'est en tout cas dans les petites têtes de Kilmer et de Eric Cornelande, je pense que c'était acté que ça allait se passer de cette façon-là. J'étais d'ailleurs moi-même assez impatient de le voir jouer en Ligue 2. Clairement, la Ligue 1, c'était peut-être un peu haut pour lui au début, mais après, il a un profil jeune encore, donc il a possibilité de progresser. Et là, du coup, ça a été la douche froide, hein, avec son cake, hein, on va dire ça comme ça, qui nous fait là, et cette histoire qui est pas près d'être terminée. Donc, du coup, ça, je pense, chamboulait les plans de Kilmer qui devait pas s'attendre à ça quand même. Donc oui, clairement pour moi il faut un 6. L'équipe est beaucoup trop déséquilibrée entre attaque et défense. On se fait transpercer sans arrêt et à chaque fois on se rend compte que dans ces phases de repli, bah, l'équipe elle est tout le temps coupée en deux. Et je pense qu'un joueur de ce profil-là arrivera sans doute à resserrer un peu les lignes, à couvrir certaines erreurs aussi des milieux de terrain un peu plus offensifs et pouvoir venir renforcer la défense. Et pour moi, c'est un profil qui effectivement est indispensable. Après, en défense, clairement, je pense qu'on a un peu surestimé le niveau de Bernauer, qui fait certes un peu le couteau suisse et c'est un peu difficile pour lui, j'imagine, même s'il s'engage à fond, je remets pas du tout en doute son implication et son engagement quand il joue, mais c'est un profil qui fait trop d'erreurs. Quand il joue en arrière central, ben, du coup, les erreurs qu'il fait sont souvent rédhibitoires. Donc, est-ce que du coup, sur un côté, est-ce qu'il sera mieux? On l'a vu sur un côté, c'est aussi, il y a de la volonté, il y a de l'engagement, mais c'est pareil, le marquage, il est souvent lâche. Il y a des erreurs techniques aussi régulières, même s'il y a une qualité de passe qui est indéniable. Hein. Donc, pourquoi pas éventuellement sur un côté, mais c'est pareil, ça ressemble à du bricolage permanent. Donc, moi, j'aurais apprécié, bah, du coup, qu'on trouve un profil un peu différent qui pourrait être allié à Chico Lamba. J'écarte volontairement Nadé parce que même si c'est pareil, c'est toujours le joueur qu'on n'attend pas et qui finit toujours par revenir et s'imposer. Bah, c'est pareil, j'ai l'impression quand même qu'il a atteint son niveau max. Depuis 3 ou 4 ans qu'on le voit jouer, ben, on voit toujours à peu près à ce niveau-là. Donc, clairement, pour moi, un central serait pas trop. Et du coup, même si j'en avais envie, je vais quand même faire comme dissident et mettre les latéraux de côté parce que, clairement, effectivement, ce sont les sacrifiés. Et ils sont arrivés en plus assez tard dans le recrutement estival. Et je me dis que peut-être. Avec cette trêve hivernale, ils auront peut-être l'occasion de retravailler certains points, se remettre d'aplomb physiquement et pourquoi pas peut-être montrer un autre niveau sur les matchs retour. Donc ouais, moi je dirais un 6 et un central.
Un 6 et un central. Bon, le 6 fait l'unanimité. Alors, il y a un truc dont on n'a pas parlé par hasard. Est-ce que tu penses que si on récupère Chico Lamba, qu'on est moins à poil en charnière centrale, il y a Axel Dodot qui pointe son nez aussi. Bernauer, ça pourrait être le 6 que tout le monde appelle de ses voeux.
Non, non, parce que
Voilà, on
moi
passe au point suivant. Merci par hasard.
je suis à fond enfin, je suis très aligné avec ce qu'a dit Dissident, c'est-à-dire que moi je trouve, mais ça date pas d'aujourd'hui, ça date de même avant Haaland, qu'on a un vrai problème depuis 2 3 ans d'impact au milieu. En fait, le dernier joueur d'impact qu'on ait eu au milieu, c'est Madi Camara pour moi. Depuis, on n'en a pas et ça manque, mais vraiment terriblement. Et c'est pas Bernauer qui fera ça, quoi. Donc je pense que c'est une de nos faiblesses et qui, par ricochet, bah, fragilise aussi la défense, quoi. Donc
Ouais,
c'est
je
tout
vais
de
te
suite,
redonner
ça
la
c'est limite
parole par
très
hasard.
important.
Je vais te
Ouais,
redonner la parole. Je donne la parole à Verivel pour certainement des réactions. Et ensuite, je te redonne la parole par hasard sur le deuxième point. On commence à parler du bilan d'Ornoland.
oui, juste, enfin, alors pour rebondir en fait sur ce qu'on est en train de dire, il y a effectivement aussi la question de ce qui va se passer sur le cas Stassin et sur l'attaque, parce qu'on parle beaucoup de la défense et du milieu de terrain, mais si on perd Davitashvili et Stassin sur ce mercato d'hiver, il faudra bien aussi recruter à ce poste-là. C'est l'âme de fond, hein, encore qui nous dit que peut-être qu'on aura à recruter un autre buteur pour clore définitivement ce cas Stassin-là qui nous pose quand même des problèmes depuis le début de saison. Et on a Denis aussi qui nous dit que ben, Bernard, il a bien joué en 6 quand il était à Rennes. Et donc, du coup, ben, voilà, la question est posée.
Oui, ça, je savais qu'il avait déjà joué au milieu. C'est pour ça que j'ai posé la question. En ce qui concerne les départs de Stassin et Davitashvili, que les deux partent, j'y crois absolument pas. Et si Stassin part, effectivement, on n'a pas évoqué cette possibilité, mais il me semble tout à fait nécessaire. C'est bien d'avoir fait remarquer. Il me semble tout à fait nécessaire de recruter un neuf si Stassin partait. Après. Le départ de Stassin, je pense que c'est quelque chose de compliqué. On a refusé des sommes importantes cet été. À mon avis, ce n'est pas pour le laisser partir pour 12 ou 15 millions au mercato hivernal. Et est-ce que quelqu'un au mercato hivernal sera d'accord pour mettre 35? Ça me paraît assez peu probable avec ce qu'il montre en ce moment. D'autant plus que moi, si j'ai cru en son potentiel dès le début, mais bon, j'étais influencé par sa nationalité. J'ai très vite pensé que son niveau réel était en dessous de ce qui était annoncé dans les médias. Donc voilà, je ne suis pas du tout persuadé que quelqu'un mette un gros chèque au mercato hivernal pour Stassin. Bon, on va suivre ça, mais ça serait un gros chantier de trouver un neuf rapidement. On sait que les attaquants, c'est ce qu'il y a de plus difficile à trouver dans le football. On arrive à Orneland. Bon, j'avais mis en premier point l'aspect comptable. Bon, je suis pas sûr que ça vaille le coup de discuter du nombre de points, du machin, du truc. Par contre, par hasard, ton avis m'intéresse sur l'évolution du collectif stéphanois avec le sorcier norvégien qui est critiqué, mais qui a quand même passé 11 buts aux adversaires en Coupe de France grâce à un système, à une organisation sans faille. Donc le collectif, son évolution depuis qu'Orneland est arrivé, j'aimerais avoir ton avis sur la question.
Bon, moi, je suis pas, enfin, vous le savez, le premier défenseur d'Orneland. Je crois pas trop à cette philosophie de jeu, déjà, par principe. Sauf à avoir un des deux plus gros budgets de France, je crois pas trop à cette philosophie. Je trouve qu'il a déjà trop été jusqu'au boutiste l'an dernier, mais je l'ai déjà dit. Cette année, en fait, il y a quand même, on l'a pas souligné là ce soir, mais il y a quand même une évolution assez notable dans le style de jeu qui montre, enfin, qui se traduit par le fait que nos buts encaissés sont récemment plus liés à des énormes bourdes individuelles qu'à des trous béants laissés derrière nos latéraux et on met moins de On n'a pas de pressing intensif comme qu'on a pu l'avoir l'an dernier jusqu'en février-mars, au milieu de terrain notamment. Donc on s'épuise moins physiquement. Alors, tu parles du collectif. Enfin, il y a deux choses qu'on peut noter. Déjà, individuellement, avant de parler du collectif, il y a quand même un vrai problème, c'est que, à part Miladinovic, mais qui était à la cave et qu'on n'avait quasiment jamais vu, on peut dire que personne n'a progressé depuis janvier. Enfin, il y a eu Stassin, mais depuis,
C'était le
on va
point
dire.
suivant. C'était le point suivant. Je te remercie de foutre
Ouais.
en l'air l'émission.
Ouais, mais je suis comme ça, moi. alors, collectivement, ce que je voulais dire, moi, collectivement, c'est qu'il y a un truc qui vraiment pose problème. C'est qu'on a l'impression que cette équipe manque de caractère. On a l'impression que les joueurs ne sont pas alignés. Et tous tournés dans la même direction vers un seul et même objectif. On a l'impression assez confusément que pour certains, l'objectif individuel est plus important que l'ambition collective du groupe. Et en gros, l'équipe, notamment dans des situations un peu compliquées, comme on a pu en connaître au Red Star ou à Dunkerque, où on se retrouve mené, mais il nous reste un quart d'heure, 20 minutes, voire plus pour égaliser, voire pour l'emporter, en fait, l'équipe n'y arrive pas, elle n'arrive pas à retourner la table. Or, avec le talent qu'on a, on devrait pouvoir y arriver si on avait une force collective, ou en tout cas une ambition collective vraiment affirmée, et une force collective vraiment affirmée. Ce qu'on peut constater dans d'autres trois, par exemple, on peut avoir un peu cette impression d'un collectif bien huilé. C'était aussi le cas du Red Star avec des moyens plus limités, parce que techniquement, enfin, ils nous ont pas montré grand-chose, le Red Star. Nous, on n'a pas ça. Donc, en fait, y a pas, le collectif, il n'arrive pas à sublimer le collectif Orneland quand même. Et ça, c'est un gros constat d'échec qu'on est un peu obligé de lui imputer. Vu de l'extérieur, c'est difficile de faire autrement que de lui imputer.
Oui, alors je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il n'arrive pas à sublimer le collectif. C'est le moins qu'on puisse dire. Dans ce que tu as dit, j'ai aussi remarqué, et c'est quelque chose qui m'a frappé ces derniers temps, le fait qu'on pressait plus tant que ça, en fait, de temps en temps un petit peu, que quand on le fait, on n'est pas bon. Donc ça, c'était sa marque de fabrique. Et on ne s'est toujours pas mieux pressé que quand il est arrivé. Pour autant, on est toujours aussi fragile sur les pertes de balles. Donc, dissident, est-ce que on arrive à trouver une seule chose, un seul point, un seul aspect du jeu sur lequel on a progressé depuis l'arrivée il y a un an de notre sorcier norvégien? Vraiment, je pose la question sérieusement. C'est pas pour faire du Orneland bashing. C'est parce que j'ai réfléchi, moi, et je ne trouve pas.
T'as passé sur l'aspect comptable, il y a quand même un truc incroyable, c'est qu'on est champion de la possession. Champagne, hein. On est à plus de 65-70% de possession de la Ligue 2, on est largement devant le deuxième. Le problème, c'est que effectivement, ça ne donne rien, cette possession. Moi, je trouve qu'on a une équipe qui ne joue pas vraiment au foot, mais qui joue à la baballe, en fait, à avoir la possession sans vraiment avoir l'objectif.
Exactement ça, c'est
Voilà.
totalement scolaire.
C'est très scolaire. Et encore une fois, moi, j'ai rien contre la possession. Et je pense que finalement, si tu vois, si je veux vraiment de dire quelque chose de positif sur Orneland, c'est que quelque part, je peux que l'encourager à avoir une équipe qui a la possession du ballon. C'est vrai que sur le papier, quand tu as le ballon, tu risques moins de prendre des buts, tu peux être plus dangereux parce que évidemment, tu vas plus souvent avoir la capacité de tirer, de centrer, d'obtenir des corners. Le gros problème, c'est que nous, on a une possession qui est absolument stérile puisqu'on ne tire pas, on ne tire pas au but, on ne profite pas du fait qu'on a le ballon, on ne centre pas, on est mauvais sur les corners. Donc en fait, c'est comme s'il y avait toute une les conséquences d'avoir du point positif d'avoir le ballon. En fait, on n'utilise pas cet avantage. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui normalement doit te donner un avantage quant à la possession, c'est le fait de fatiguer l'adversaire. Le fait de l'user et de pouvoir profiter en fin de match, de pouvoir renverser la table, pour reprendre l'expression de par hasard. Et là encore une fois, on tourne le dos à cette capacité, parce que d'une part, avec notre possession très scolaire, j'ai pas l'impression qu'on use beaucoup l'adversaire. Et en plus, l'adversaire, lui, il fait des changements pour faire entrer un peu de sang frais et pour contrer cette baisse physique. Et nous, on fait pas de changement. Donc du coup, les joueurs, même nos joueurs finissent un peu par se fatiguer, se lasser de cette possession. Donc en fait, je suis désolé, hein, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout l'idée. Je comprends la philosophie d'avoir le ballon. Je remercie Orneland peut-être d'avoir essayé d'être moins obtus sur le pressing à tout va et les grands courants d'air défensifs. Effectivement, ça on voit que sur les derniers mois, il y a eu un changement là-dessus. Mais par contre, il ne change pas sur le principe de base qui est faire quelque chose avec le ballon. et non pas juste être content d'avoir le ballon. Pour moi, c'est vraiment le reproche numéro un que je lui fais actuellement, c'est de se contenter d'être numéro un de la possession sans du tout chercher à profiter du fait d'avoir le ballon.
Oui, alors, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. J'ai même parfois l'impression que dans les petits espaces, on se fatigue plus que les défenseurs qui viennent nous presser en zone, dans les petits périmètres sans tellement bouger, puisque nous, on ne les bouge pas par des renversements, par des choses comme ça, alors que ça, on le subit énormément, ce type de renversement. On le fait très peu, et puis le peu de fois où on le fait, ben, on n'est pas capable de centrer correctement. Enfin bon, c'est la loose. Pat, donc moi, j'ai vu la même chose que Dissident, c'est-à-dire quand même une évolution. J'ai même pas envie de dire que c'est positif, je vais préciser, avec moins de pressing. Puisque je répète, hein, quand on en fait, je trouve qu'on n'est pas bon, je trouve qu'on n'a pas progressé du tout. Et par contre, à la perte de la balle, on est toujours fragile. Alors, sauf erreur de ma part, tu vas me dire si tu es d'accord, moi, j'ai vu aucune évolution positive dans l'organisation défensive de l'équipe, dans une capacité de repli et de nous rendre moins fragiles sur les pertes de balles.
En fait, sur ça, moi, j'ai eu l'impression que même les joueurs ne savent pas faire encore. Alors, même moi, j'arrive pas à comprendre déjà quel est le rôle de chacun sur les phases défensives. Qui doit aller marquer qui? Quand le ballon passe d'un côté à l'autre, qui doit y aller pour compenser? Si un joueur se fait dépasser, qui doit faire le dépassement de fonction pour aller l'aider? J'ai l'impression que ce système défensif que Horneland essaye de mettre en place pour compenser son déséquilibre offensif, il n'est pas clair. Je sais même pas s'il est clair pour lui déjà sur le fond, mais déjà pour les joueurs, c'est quelque chose qu'ils ont beaucoup de mal à assimiler. Et puis on le voit, il suffit que les adversaires insistent sur nos points faibles, donc c'est-à-dire sur nos latéraux, les renversements de jeu, les transitions, etc. Au bout d'un moment, on est complètement perturbé. En plus, derrière, on a nos joueurs qui font toutes ces erreurs techniques à répétition, ces fautes de marquage, ces mauvaises passes, etc., qui nous mettent en plus dedans. Donc, j'ai l'impression que sur ce point-là, on a c'est un grand inconnu. C'est pour moi, après, derrière, je pourrais accepter ça si on avait conservé l'allant du premier tiers, on va dire, des matchs aller, où on avait un niveau physique qui semblait quand même bien supérieur à celui de nos adversaires. On voyait qu'on avait quand même un mode rouleau compresseur qui marchait bien. Qui finissait par user l'adversaire. Et même si on a fait quelques contre-performances, je pense à Laval notamment ou Grenoble où on n'a pas été très efficace, on avait quand même cette propension à finir par renverser les matchs, chose qu'on ne fait plus maintenant aussi parce que l'équipe elle m'a l'air également complètement cuite. Et ça, je pense, et c'est là, moi, je vais faire le reproche que je vais faire à Eric Horneland, c'est surtout sur cette incapacité à pouvoir s'adapter à ces changements. L'équipe, on voit bien qu'elle va moins bien physiquement, qu'elle se sent pas bien. Alors effectivement, il y a un peu moins de pressing du coup qui est demandé, mais quand même, on continue ce jeu de possession, on continue ces petites phases d'attaque, etc., qui ne sont pas efficaces. Donc voilà, moi, c'est ça que je reprocherais essentiellement à Eric Horneland. Et il faut faire court, donc j'arrête là.
En fait, dans ce que tu as dit, j'ai quelque chose qui m'a marqué parce que je suis incapable de pouvoir répondre à cette question. Quel est le rôle de chacun à la perte du ballon? C'est toujours pas clair. Est-ce qu'on joue sans aucune sécurité? Est-ce qu'on accepte le 1 contre 1? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est censé qui est censé rester? Est-ce que certains ont plus que d'autres la mission de revenir très vite se replacer à la perte? Eh ben, après une année d'Orneland, on ne sait toujours pas. Et puis même si on ne dit pas une année, on dit une demi-saison avec l'effectif actuel. Donc, si certains ont une vision claire de cet aspect, bah, qu'ils le disent. Mais en ce qui me concerne, ce n'est pas clair du tout. Verivel, intervention.
Oui, sur le chat, Orneland, effectivement, on prend un petit peu pour son grade, avec notamment Frankie McFly, là, qui nous dit que, ben, comme on disait tout à l'heure, en fait, tout le monde sait comment jouer son 4-3-3 et comment nous faire des jouets. Il étudie aussi jamais le jeu adverse, ça, c'est l'âme de fond qui renchérit là-dessus. Denis, hein, Denis, qui nous dit aussi qu'on n'a pas de force collective, que chacun joue pour soi ou presque. Moi, personnellement, enfin, je l'ai dit déjà tout à l'heure, je pense que le système Orneland, il nous a amené des choses quand tout le monde était au taquet physiquement. Mais je pense que la moindre baisse de régime de quelques joueurs, hein, notamment des joueurs clés comme Jabber, on en a parlé tout à l'heure, eh ben, nous met dans le rouge complètement, et donc ce qui entraîne les conséquences sur les résultats. Je pense que si tout le monde était vraiment au taquet, et on l'a eu été sur peut-être 2 ou 3 matchs, là, c'est sympa comme jeu, mais c'est trop, beaucoup trop exigeant.
Bah, il faut savoir jouer avec son effectif. Et c'est vrai que
Exactement.
cette revendication de ne pas s'intéresser à l'adversaire, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est vrai, mais Dissident y a fait plusieurs allusions. L'âme de fond en reparle. C'est quelque chose qui est difficilement compréhensible dans le foot moderne, surtout quand des équipes, en plus, parce que moi, c'est ça qui me frappe aussi, c'est que nos adversaires ne sont pas très bons, quoi. Enfin, vraiment. Techniquement, il y a beaucoup d'erreurs comme nous. Par contre, ils savent ce qu'il faut faire. Et ils le font facilement pour déjouer un mec qui est arrivé avec l'étiquette du deuxième meilleur entraîneur lorsqu'il s'agissait enfin, deuxième meilleur entraîneur d'Europe lorsqu'il s'agissait de presser l'adversaire. Bah, au début des tentatives de pressing, on en a vu un pressing efficace, organisé, qui nous faisait rêver, on n'a pas trop vu. Alors, on va attaquer le dernier point du bilan d'Orneland avec les évolutions individuelles. C'est mi-Orneland, mi-joueur. Et je vais donner la parole à Parazar qui a commencé à en parler tout à l'heure. Avant ça, Pat.
Oui, très rapidement pour revenir à ce que je te disais, nos adversaires, oui, effectivement, que je te rejoins, je les ai pas toujours trouvés très bons non plus, mais ce que eux avaient et que nous, clairement, on n'a pas ou trop rarement, c'est pour moi une vraie âme collective, une vraie envie collective de jouer ensemble, de progresser ensemble, de se déplacer ensemble, de souffrir ensemble. On l'a vu quelques fois, mais c'est ce qui manque vraiment, et là, sur ces derniers matchs, c'est vraiment criant.
Et on a
Ouais,
ça
on l'a.
aussi pardon, excuse-moi de te couper, mais on a ça aussi sur le chat, hein. C'est Mathis là qui vient d'arriver et justement qui nous dit que si on avait un coach qui savait créer une âme dans son équipe, ça limiterait grandement, hein, les erreurs individuelles. C'est exactement ce qu'on vient de dire.
Oui, il y a pas. Alors ça, je ne sais pas si c'est 100% de sa faute, parce que les joueurs, ils ont le droit de se prendre en main aussi. Ils ont le droit d'avoir envie de faire des efforts les uns pour les autres et pour le public. Donc ça, je ne mets pas sur Orneland totalement, même si on sait que dans le ciment d'un groupe, l'entraîneur est important. Mais je crois qu'il faut être aveugle pour ne pas s'en rendre compte de ça. Alors, de temps en temps, il y a un mec qui fait un petit exploit individuel, effectivement, mais ça ne fait pas un collectif, ça, et ça ne fait pas une envie de gagner ensemble, et ça ne donne pas un supplément d'âme qui permet de retourner des situations compromises. Donc, c'est très, très problématique et c'est pour ça que j'ai de plus en plus de mal à croire en ce collectif. Alors, les évolutions individuelles, par hasard, tu as commencé à vouloir en parler et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui me frappe parce que, alors, collectivement, on en a parlé, mais individuellement, je ne sais pas si je suis capable de trouver un exemple de joueur qui me donne le sentiment d'avoir progressé depuis qu'Orneland est arrivé. Évidemment, il y a Miladinovic qu'on ne voyait pas. Maintenant, on le voit. Il a fait deux, trois trucs intéressants. Bon, il n'est pas nul, d'accord. Mais pour le reste, j'ai même le sentiment que certains régressent. Et moi, le truc le plus frappant, c'est Jabber. Quand il est les premiers matchs de la saison, je me suis dit, putain, lui, il est vraiment au-dessus. Hein. On sentait un mec, pour moi, qui était une classe au-dessus de tout le monde, et ce n'est plus du tout le cas. Donc, par hasard, je te laisse nous expliquer un petit peu, nous exposer un petit peu ce que tu penses des évolutions individuelles, sujet que tu as commencé à aborder tout à l'heure.
Bah, j'avais oublié tout à l'heure, j'avais oublié Boakye dans les éventuels joueurs dont on peut dire qu'ils se sont améliorés depuis 11 mois. Donc Miladinovic, forcément, parce qu'on ne le voyait pas. Et donc les quelques bons matchs qu'il a pu faire ont été plutôt des heureuses surprises, finalement. Moi, j'avais un peu tiré un trait dessus avant le début de saison. Donc Miladinovic et Boakye, parce que je te rejoins sur le fait que pour moi c'est le meilleur joueur dans sa constance, dans la performance depuis le début de saison. C'est vrai aussi que l'an dernier il avait été beaucoup blessé, donc bon, probablement que ça aide un peu. Mais par ailleurs, bah, il y a rien à dire. Il manque de repères, nos joueurs, probablement, ou de confiance, ou le fait que certains aient envie de se barrer, d'autres sont là alors qu'ils auraient bien aimé, ils étaient sur le point de se barrer et ils n'ont pas pu, ou ils n'ont pas trouvé le club qui les intéressait. On a une espèce de maelstrom qui ressemble à rien, de joueurs qui sont probablement pas tous désireux d'atteindre le même objectif. Des mecs comme Cardo sont ultra inconstants, et puis Cardona, on le connaît, quand il est mauvais, il n'est pas mauvais, il est très très mauvais. Donc, personne ne progresse. L'Arso est moins bon finalement que l'année et demie qu'il a passé chez nous en Ligue 2 il y a 2 ans. Je vois pas, non. Et Jabeur, comme tu dis, alors bon, Jabeur, il y a eu quelques blessures. Je ne l'avais pas trouvé non plus génial, moi, en début de saison. Je ne suis pas totalement d'accord avec toi. Je l'avais trouvé bien, mais sans me dire que c'était un titulaire certain pour la Ligue 1. Et donc, effectivement, il y a zéro progression individuelle. Hein. Il y a vaguement deux joueurs qui étaient un peu blessés ou qu'on voyait peu l'an dernier. C'est Miladinovic et Boakye.
Oui, je te rejoins sur Boakye. Alors, je l'avais pas cité parce que c'est vrai qu'on l'avait pas vu beaucoup avant, mais c'est un garçon qui m'a beaucoup plu. Donc, on va pas non plus dire que quand les mecs commencent à s'affirmer, prennent du volume, Hornelande n'y est pour rien. Alors que quand ils en perdent du volume, c'est de sa faute. Donc voilà. Bon, allez, on valide Boakye. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, le reste des évolutions individuelles est très très inquiétante et ça m'inquiète même pour les jeunes parce que je me demande dans quelle mesure il est capable de les faire progresser. Les apparitions de Paul Aimar qui est quand même présenté comme un ultra crack face à des amateurs, elles n'ont vraiment pas été très convaincantes. Bon, Stojkovic, j'en parle même pas, c'est bon, catastrophique. Voilà, donc bon, là c'est à nouveau, sans vouloir tomber dans le Horneland bashing, c'est à nouveau un point sur lequel eh ben, il n'est pas du tout convaincant. Enfin, vraiment, c'est un constat, c'est pas une interprétation. On va attaquer la dernière partie sur Kilmer. Je donnerai la parole à Dissident pour commencer. Avant ça, Verivel pour des réactions, peut-être?
Oui, juste pour sur ce qu'on disait là, sur le chat, il y a l'âme de fond qui évoque Pedro, parce que effectivement, Pedro, ça fait partie des joueurs qui ont progressé, parce que pareil, comme Milinkovic, on le voyait pas. Et là, les rares fois où on l'a vu, c'était plutôt pas mal, non? Je sais pas ce que vous en pensez, mais
Oui,
on peut
oui.
l'ajouter à notre liste.
Ouais. Alors, comme c'est un tout jeune, c'est
On a
vrai
vu un
que.
match et demi, hein.
Ouais, c'est ça. Comme c'est un tout jeune, c'est difficile de parler d'évolution claire. Il a évolué avec la réserve. Quand il est rentré, il a fait un match très au-dessus de ce qu'on pouvait attendre. Donc, ça fait plaisir parce que c'est pas souvent que nos jeunes, quand ils rentrent, ils sont convaincants. Donc, mais par contre, ça, je ne le mets pas dans les évolutions individuelles depuis qu'Horneland est arrivé. Voilà, c'est une bonne surprise. mais à confirmer évidemment. Je crois que par hasard, je crois que c'est toi qui disais qu'il avait joué un match et demi. Donc c'est pas
Ouais, on peut pas juger, quoi.
non.
Il y a une promesse, quoi, mais bon.
Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. En plus, le deuxième demi-match, il a été moins convaincant que le premier match qu'il avait fait titulaire, sans avoir été mauvais, mais moins convaincant. Et puis, il est rentré dans des conditions. Si c'est vrai que Horneland a sorti Mi Canadé pour une question de performance, bon, enfin, pour moi, c'est absurde totalement. Bref, on va passer à Kilmer avec. Avec Dissident pour commencer. Dissident, alors, on n'a pas les réponses à ces questions-là, mais j'aimerais avoir ton sentiment quand même. Moi, je me demande jusqu'à quel point Tannenbaum, il sait exactement ce qui se passe, jusqu'à quel point il est impliqué dans les décisions, parce que y a des moments, je me dis, que font-ils avec son fric, quoi? Avec leur recrutement sur la data, Fab Libiszewski me disait hier, on va bientôt nous recruter des U9 en Ouzbékistan avec leur data de merde. Je reprends ces propos, mais on pense tous un peu la même chose. C'est quand même quelqu'un qui, au-delà du fait qu'il a beaucoup d'argent, a une grande expérience dans le management des équipes professionnelles. Est-ce que tu crois encore au projet Kilmer? Comment tu sens un petit peu, comment tu ressens les responsabilités de chacun? Moi, je commence à trouver ça inquiétant et un peu illisible, en fait.
Oui, il y a des points d'inquiétude, des points de vigilance qu'il faut qu'on ait et qu'on suive. Il y a des signaux un peu négatifs. Je rajouterai à tout ce que tu as dit le bilan des jeunes, parce que moi, ça m'attriste beaucoup que cette saison, on voit bien qu'aussi bien dans la réserve en National 3 que nos U19, nos U17, même nos U15 ont des résultats assez moyens, en tout cas auxquels ils ne nous avaient pas habitués sur les dernières années. Et je trouve que ça aussi, c'est vraiment un signe négatif. Par rapport à l'évolution de notre club. Alors, peut-être que c'est transitoire, mais en tout cas, je pense que c'est important aussi de le souligner.
Oui, ça m'a frappé également. Tu fais bien d'en parler. C'est un truc supplémentaire qui va pas très bien.
Ouais. Après, autant j'ai un avis assez tranché sur Horneland et j'ai déjà exprimé ici parce que je pense que au bout d'un an sur un entraîneur dont on voit l'équipe jouer tous les week-ends, on peut avoir un avis. Autant je pense que c'est beaucoup plus compliqué pour nous en simple observateur de pouvoir juger du travail de fond de Kilmer, de la gestion au quotidien d'un club professionnel. C'est vraiment très très compliqué de juger. Le temps n'est pas le même. Ils sont là depuis un an et demi. Ah, même si pour nous ça paraît très très long et on voit pas arriver les progrès comme on espérait les voir arriver. Peut-être que c'est normal. Peut-être que ça fait partie de leur stratégie. On ne sait pas trop ce qu'ils ont trouvé en arrivant au club. J'imagine que ça devait pas être très reluisant quand même derrière la façade. Donc je pense que tout ça, ça nécessite du temps auquel on n'est pas habitué, nous, en tant que supporters. C'est vrai qu'on veut des résultats rapides et on rêvait même de résultats rapides quand ils sont arrivés. J'essaie d'être beaucoup plus patient avec Kilmer que je le suis avec Horneland, dont j'espère plus grand-chose maintenant. Je pense que Tannenbaum, c'est quand même quelqu'un qui a fait ses preuves sur le management sportif. Je pense qu'il sait ce qu'il fait. Il a mis des hommes en qui il a confiance, des hommes qui ont l'habitude de gérer, de redresser des clubs comme le nôtre. Donc, si pour répondre à ta question, moi j'y crois encore. Maintenant, le temps presse malgré tout. Ça fait un an et demi qu'ils sont là. Je pense que le passage de l'été, là, ça va être un passage très important pour eux. Clairement, si on n'arrive pas à remonter en Ligue 1, ce sera un premier gros échec pour eux, parce que je pense que c'est vraiment assez improbable dans leur esprit qu'ils acceptent qu'on repasse une année de plus en Ligue 2. Voilà, le temps va commencer à presser maintenant pour vraiment qu'on voit des résultats positifs. Si c'est pas cette saison, il faudra que ça arrive vraiment très très vite au cours de l'année prochaine.
Oui. Alors, c'est vrai que cette histoire de faut laisser le temps au temps, ils sont en train de construire, etc. Quand ça va s'arrêter? À partir de quand on peut faire un bilan de leur action, Pat? Est-ce que tu as, rapidement, parce qu'on atteint la fin de l'émission, mais est-ce que tu as un avis sur la question, sur le délai raisonnable qu'on peut laisser à Kilmer pour qu'on commence à voir la construction claire de quelque chose de solide?
Oh, c'est un peu difficile de répondre à cette question. Là, pour moi, il y a deux choses. Il y a justement le travail de fond que décrivait Dissident et dans lequel, effectivement, il faut partir sur du temps très long, long, voire très long. Effectivement, on ne sait pas dans quel état le club était. Donc forcément, il y a sûrement beaucoup de choses à revoir et à remettre en place. Il y a aussi des situations difficiles à faire bouger. Je pense notamment à notre triumvirat de dirigeants locaux qui est encore présent et qui, à mon avis, qui ne sait pas trop comment ou sous quel délai ils vont pouvoir peut-être les faire bouger. Pour ce temps long là, il est normal, il est légitime, et même si ça prend encore 1, 2 ou 3 ans de plus à restructurer, ça me choquerait pas. Moi, ce qui me choque plus, c'est la partie sportive où ils s'entêtent dans leur politique actuelle de jeunes prospects, de data, etc. Comme tu disais, la fameuse data de merde, voilà, et qui ne donne pas de résultats sportifs, et ils s'entêtent dans cette politique-là. Moi, c'est plus sur ce point-là, maintenant que je les attends, parce qu'on voit déjà les premiers effets de la restructuration quand même, hein, avec les injections de fonds dans le capital du club, la mise en place d'un staff étoffé, et qui semble de qualité. Maintenant, il faut que sportivement ça avance. Il faut à tout prix se rendre compte des erreurs qui ont été faites depuis 1 an et demi dans le recrutement, dans la mise en place du projet de jeu, la mise en place d'hommes qui ne connaissent pas le championnat de France, la Ligue 1, la Ligue 2, et en tirer des conséquences. Pour moi, ça c'est important. Et moi, je les attends là. Surtout, c'est là que je les attends. Et là, pour le coup, sur un délai qui devra être court. Forcément, parce que si on ne monte pas cette année, ce sera un vrai échec. Et il faudra très vite tirer les conclusions, même si jamais on monte, pour ne pas redescendre tout de suite l'année prochaine.
Ah bah, c'est certain que si on ne monte pas, ça sera un échec cuisant. Et si on monte, ils ont encore tout à prouver. Par hasard, on va terminer l'émission avec toi sur ce thème, sur ce terme du délai et des effets, enfin du délai qu'on peut accorder à Kilmer pour voir des effets positifs. Ils ont beaucoup communiqué sur le fait qu'ils avaient restructuré sur le plan administratif, sur le plan du fonctionnement en interne l'année dernière, qu'ils voulaient investir dans les infrastructures aussi. Mais un club de foot, c'est probablement avant tout le sportif. Et mon petit doigt me dit que pour toi, ils sont déjà un peu en retard sur la feuille de route.
Ouais, moi c'est vraiment le truc sur lequel je suis le plus énervé en fait. Dissident, il a parlé de premier gros échec si on monte pas cette saison, mais pour moi ça sera le deuxième gros échec. Je passe pas par perte et profit la descente de l'an dernier, je leur en veux beaucoup. Ça c'est la première chose. La deuxième, vous l'avez pas trop évoqué, mais moi je pense que quand on dit structure, on parle d'un truc ultra nébuleux dont on est obligé de penser, parce qu'il y a eu quelques recrutements, qu'effectivement, ils sont en train de professionnaliser le club, mais on n'a pas vraiment de. On ne connaît pas les gens qui ont été recrutés, on ne sait pas comment c'est en train de se structurer. On a vu partir un membre de la prépa physique, un préparateur physique assez vite après son arrivée. Bon, un autre vient d'arriver. Tout ça est un peu bizarre. Il y a un poste qui, pour moi, aujourd'hui, n'est pas clair, c'est le poste de directeur sportif. Je pense malheureusement que Dieu est un peu mis sur la touche et qu'il joue donc plus ce rôle-là. Et je fais plutôt partie de ceux qui pensaient qu'il avait une tête bien faite et bien pleine pour jouer ce rôle-là et être de mieux en mieux dans ce poste les années aidant. Mais je pense qu'il joue plus ce rôle-là et que c'est un pantin. Et que personne n'a la stature et les compétences pour le jouer à sa place. C'est-à-dire que Famy, c'est un ancien avocat. Je pense qu'il n'est pas plus directeur sportif que moi. Et je ne sais pas qui joue ce rôle-là aujourd'hui. Et dernière chose que je voudrais dire, la data, c'est sympa, mais Lens est leader du championnat, avec comme taulier Florent Thauvin, Thomasson, Wesley Saïd. derrière Malang Sarr. Je ne sais pas où la data a joué un quelconque rôle dans le recrutement de ces mecs-là, quoi.
Tu oublies Udol qu'on a voulu recruter plusieurs fois.
Et Udol. Donc, en gros, des mecs qui ont de l'expérience de la Ligue 1, qui, à part Thauvin, n'ont jamais été des cadors, mais coachés par un type qui, manifestement, pour le coup, est une révélation, parce que ça fait. Bon, il a sévi pas très loin d'ici, pas très loin de chez nous, et il a plutôt bien sévi. Et là, à Lens, ouais, manifestement, ça se passe aussi très bien. Donc, ça remet vraiment en cause les idées un peu modernes, ce putain de modèle foireux auquel moi j'ai jamais trop adhéré. Je suis désolé, mais bon, il y a des trucs qui marchent bien. Brest, ils n'ont pas aussi obtenu leur billet pour la Ligue des Champions avec une stratégie d'attaque, quoi. Il y a un club qui joue la stratégie d'attaque à plein tube, c'est Strasbourg. Bon, est-ce que vraiment on a envie de d'être 7-8e du championnat avec autant de fric investi, parce que pour l'instant Strasbourg c'est ça. Ouais, vous connaissez ma réponse. Donc le temps, ça y est, il est dépassé, quoi, en fait. On est en. Alors, c'est pas fini cette année, on peut encore largement monter mathématiquement, mais ça se passe pas très bien, on est obligé de le dire. Et donc, si ça foire, bah, ça sera le deuxième et vraiment pas le premier échec. Et ça sera impardonnable à mes yeux.
Oui, je suis assez d'accord avec ça. Je pense que l'année dernière, c'était déjà un échec, effectivement. Avant de donner la parole à Verivel pour terminer l'émission, je voudrais ajouter un truc qui m'a un peu surpris. On ne l'a pas évoqué parce que je n'ai pas pensé à le mettre dans le débat, mais Horneland a déclaré, là, je ne sais plus si c'est cette semaine ou la semaine dernière, qu'il n'avait aucun contact avec la cellule de recrutement. Donc, quand tu parlais d'organisation nébuleuse, c'est quand même une déclaration extrêmement spectaculaire et, si c'est vrai, une organisation difficilement compréhensible. Verivel.
Ouais, juste un truc pour te répondre là-dessus, c'est rapproché de la déclaration qu'il avait faite cet été concernant Léo Pétraud, notamment, en disant moi j'ai très envie de le garder. Je pense que c'est pas surprenant qu'il ait dit ça parce qu'il l'a mis titulaire entre janvier et mai, ça a été quasiment le joueur le plus titularisé, je pense, Pétraud. Donc je pense que lui aurait bien aimé qu'on propose quelque chose à Pétraud et qu'on propose une prolongation dès février-mars, s'il ne serait pas opposé. Et manifestement, on l'a pas fait. Donc, moi, je suis assez convaincu qu'il n'a pas trop voix au chapitre sur le recrutement.
Oui, et puis Léo est meilleur que ce que fait Hanan actuellement. Donc, c'est pas le même style de joueur, mais objectivement, je pense, enfin, y a pas photo, quoi. Tu dois en mettre un des deux dans ton équipe, bah, tu mets Léo. Ouais. Avec le niveau d'Hanan aujourd'hui, peut-être que dans 3 ans, ça sera différent. Verivel.
Oui, alors il y a beaucoup d'échanges sur le chat, c'est sympa d'ailleurs. Pour résumer, hein, je vais dire un tweet là, c'est pas un tweet d'ailleurs, c'est une entrée de chat là de Lame de Fond qui demande en fait, qui pose une question, est-ce que le club est prêt pour un management anglo-américain 2.0? Donc c'est exactement dans le débat qu'on avait, avec aussi des critiques sur effectivement le fait que les entraînements sont en anglais et que ben voilà, il y a d'autres clubs hein, comme Brest, comme Angers, Le Havre qui réussissent à se maintenir sans vraiment de moyens et sans utiliser aussi la data. Donc on est en plein dedans aussi sur le chat.
Angers entraîné par Alexandre Dujeu, formé au Football Club de Floimont.
Ah, bah écoute, voilà. Super référence, du coup.
Et avait absolument le Football Club de Floimont qui est aussi le club formateur de Mustapha Dalebbe.
C'est merveilleux.
Pour ceux qui ne connaissent pas, capitaine emblématique du Paris Saint-Germain. Il me semble que je voulais dire un truc, et à cause de toi. Oui, Angers en plus qui avait 0 € pour recruter. Hein, donc, bon,
Exactement.
ça doit être possible effectivement de vivre sans aller chercher au fin fond du Tadjikistan un U13 qui a marqué 187 buts en 2 saisons. Voilà. Bon, on arrive au terme de cette émission. Merci de l'avoir écouté, que ce soit en direct ou en podcast. On vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année. Bon, bah, on a tous tendance à se souhaiter la même chose hein, dans cette émission. Bien évidemment, avant tout, bon, allez, on va mettre la santé en premier quand même, mais en deuxième, très très vite, très haut dans la liste, une saison, une fin de saison aussi bonne que possible pour les Verts et puis un avenir radieux, l'avenir que mérite le meilleur public de France. Merci à tous, à très bientôt et allez les Verts.
Allez
Allez
les
les
Verts, allez les
Verts!
Verts.